Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Okai, la radio participative du quartier nord de Bruxelles, le quartier qu'on habite et qu'on aime. C'est un quartier qui a été mis de côté pendant un certain temps, mais aujourd'hui, il y a tout à y faire et à refaire. Radio Okai, on l'écoute tous les quatrièmes samedis du mois à 20h sur Radio Campus 92.1 ou radiocampus.be. Et puis Radio Okai, c'est tous les jours, à toutes les heures, sur radiookai.be. Alors nous, c'est Nima, Nisrine et Ali. On a piqué les clés du studio ce mois-ci et on a travaillé avec Oumaima, Gina, Jeannette, Meissa et Samira et Romuald et Isabelle.
Pour ce Radio Okai de novembre, on s'est interrogé sur la santé mentale des jeunes et les impacts des réseaux sociaux, notamment sur cette santé mentale. On a interrogé les personnes en rue, on a réfléchi ensemble et on a aussi questionné un spécialiste sur le sujet.
On vous laisse découvrir ça. Première étape, le micro-trottoir dans le quartier nord, mené par Nisrine et Oumaima.
La première question, c'est qu'est-ce que c'est la santé mentale pour vous ?
Pour moi, c'est, c'est le bien-être dans soi.
Moi, je suis heureux. Je comprends qu'il y a des problèmes avec des jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais moi, j'ai ma copine, j'ai un petit chien avec moi. Je pense que ça va, oui.
C'est la base, je trouve, la santé mentale. Si on va pas bien mentalement, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui peut aller.
Qu'est-ce que c'est pour vous, la santé mentale ?
La santé mentale, bien-être, être bien dans, comment dire, dans sa vie, dans son corps, dans tout, en fait. Donc.
C'est le bien-être. C'est le fait de ne pas nourrir des problèmes, des soucis, des angoisses, des peurs.
Imaginons, pour moi, la santé mentale, enfin, le téléphone, tous les réseaux sociaux, tout ce truc-là, lorsque tu t'accroches énormément... Pour moi, ça peut être une cause de la santé mentale. Enfin, c'est vraiment pas une bonne chose, justement, le téléphone. Et surtout les écrans. Par exemple, moi, étant jeune, je m'étais beaucoup accroché à la PlayStation et ça m'a beaucoup tué d'une certaine manière durant mon enfance. Je me suis rendu compte plus tard qu'il faut mieux profiter avec les jeunes, avec ses amis, que perdre son temps sur les écrans. Et je trouve que les écrans, c'est plutôt une cause de la santé mentale.
Qu'est-ce que la santé mentale pour toi ?
C'est une énorme question, mais je pense que la santé mentale pour moi, c'est la recherche d'un équilibre entre ce que je veux de la vie et ce que j'ai de la vie.
Santé mentale, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, déjà, premièrement. C'est quelque chose qui a toujours été en réalité tabou, même si on commence doucement à en parler. Il faudrait encore mieux en parler et plus tôt. Ça veut dire que maintenant, moi par exemple quand j'étais en secondaire, on a commencé à m'en parler en deuxième. Pour moi ça doit arriver en deuxième, mais primaire. Vraiment très tôt, dès que l'enfant il comprend c'est quoi la vie, eh ben, avant que la santé mentale elle commence à se dégrader, commence à avoir des problèmes, lui expliquer c'est quoi, comment il pourrait se sentir bien et comment pouvoir gérer un problème.
Voilà donc ce qu'il est passé en pince. Après ce tour dans les rues, on a discuté entre nous pour faire le point sur ce que nous, on en pensait.
Bonjour, moi c'est Oumaima, j'ai 19 ans et j'habite dans le quartier Nord. Moi, j'ai choisi de travailler sur le sujet parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. On est confronté à ça tout au long de notre vie et je trouve que c'est important de mettre des mots dessus.
Donc moi c'est Nisrine, j'ai 17 ans, je viens du quartier Nord et je trouve qu'on a choisi un bon sujet parce que c'est la santé mentale, c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant, surtout chez les jeunes. Et donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant d'en parler.
Bonjour, moi je m'appelle Nima, j'ai 14 ans, je viens du quartier Nord aussi et moi je trouve la santé mentale c'est un sujet dont on parle pas assez, c'est tout.
Moi, c'est Meissa, j'ai 17 ans, j'habite à Anderlecht. Et comme Meissa, je trouve que c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est un sujet très important, donc c'est très important d'en parler, du coup.
Moi, c'est Ali, donc je suis éducateur au PCS pour l'SBLSOA, ici dans les quartiers nord. Et j'accompagne le groupe de jeunes filles à se questionner sur des sujets qui leur parlent et qui peuvent les pousser à se questionner sur leur quotidien, leur quartier et des choses comme ça.
Hier, on était en micro-trottoir dans les rues du quartier. Une des questions qu'on a posées, c'est est-ce que c'est tabou pour toi ou autour de toi, Ali, de parler de santé mentale, est-ce que dans ton milieu professionnel, et donc professionnellement et personnellement dans ton milieu personnel, c'est quelque chose qui est facile ou pas à aborder?
Enfin, la difficulté, c'est que c'est encore un sujet assez flou, assez nouveau. Donc, on mélange très vite santé mentale et problèmes mentaux. Non, mais vraiment, quand on parle de santé mentale, c'est qu'il y a forcément un problème et que ça ne va pas et qu'on doit trouver des solutions. Mais, donc, les gens ont parfois du mal à pouvoir se dévoiler en disant que, ouais, il y a une difficulté ou ça se passe bien aussi, hein, ça peut bien se passer. Et malheureusement, ça, on n'en parle pas beaucoup. On parle souvent quand c'est négatif. Donc, avec les jeunes, on en parle, mais souvent en petit comité, quand on est de l'individuel. Mais quand on arrive sur du collectif, c'est difficile de pouvoir s'ouvrir aux autres et pouvoir raconter ce qui se passe au quotidien, que ce soit à l'école, en famille, sur l'espace public. Et donc, ouais, c'est encore un sujet qui est difficile à aborder sans toucher à la personne et parfois se dévoiler quand le lien n'est pas créé, quand l'espace n'est pas assez bienveillant ou serein. C'est difficile et justement notre travail c'est de pouvoir les accompagner à ce qu'on arrive à créer cet espace où on peut travailler cette thématique.
Ok, merci. Justement, Ali a un peu évoqué, a commencé à en parler, mais c'est quoi pour vous la santé mentale? Quand on vous parle de santé mentale ou quand vous entendez ce mot, qu'est-ce que vous vous dites que c'est en fait?
C'est sentir bien dans sa peau et avoir un entourage sain.
Et c'est quoi, à ton avis, un entourage sain?
C'est un entourage sans vice. Les gens ne doivent pas avoir de vice autour de nous, c'est tout.
Moi, c'est l'équilibre émotionnel, social d'une personne. C'est comment elle va gérer ses émotions, ses relations, son stress au quotidien.
Pour moi, c'est comme Maïma, la santé mentale, c'est l'état de notre esprit, c'est la façon dont on gère nos émotions, notre stress et la manière dont on se sent au quotidien.
Pour moi, c'est ce qui s'intéresse au bien-être d'une personne, à comment cette personne elle se sent dans sa tête. Et voilà.
Mais est-ce qu'en général, c'est quelque chose que vous abordez pareil, que ce soit dans vos sphères à l'école ou dans vos sphères privées, en famille, avec
non.
des amis?
Non, vraiment pas.
Moi, à l'école, oui.
Avec des amis ou vraiment dans le cadre scolaire?
Non, dans le cadre scolaire. J'ai des cours de psycho, de sciences sociales et tout.
Ok. Et toi, Oumema?
Moi, je trouve que c'est encore un peu tabou d'en parler, même si ça commence tout doucement à devenir un sujet qu'on aborde plus souvent, notamment à l'école. Moi, je trouve que de nos jours, on en parle plus. On nous dirige vers des spécialistes ou bien des personnes compétentes. Donc, oui, je trouve que c'est encore tabou, mais ça commence tout doucement à être un sujet...
Vous n'en parlez pas tellement à l'école, parce que vous savez, ça a été un nom assez franc.
Ouais, c'est encore un peu tabou. C'est pas vraiment banalisé, parce que comme Ali l'a dit, c'est les gens ils associent souvent la santé mentale aux maladies mentales, et du coup ils ont peur d'être jugés ou de ne pas être compris. Alors ils préfèrent garder ça pour eux, etc.
Et vous pensez que ça vient d'où cette question de compréhension, Ali? Est-ce que ouais. Toi, qu'est-ce que tu peux voir?
Moi, je rebondir aussi sur la question de l'image.
Ouais.
Actuellement, on a des jeunes qui sont beaucoup dans l'image, à travers les réseaux sociaux, etc. Ce qui crée aussi beaucoup de difficultés au niveau santé mentale, parce qu'on est beaucoup dans la comparaison à cette époque-ci. On l'était moins il y a quelques années, parce qu'on avait moins l'accès à l'image. Donc, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui s'identifient ou qui veulent s'identifier à des personnes qui n'ont peut-être pas forcément accès directement, ce qui crée parfois... des tensions en eux-mêmes. Et donc ça, cette difficulté, elle est importante. Enfin, cette nuance, moi je le vois actuellement, les jeunes sont beaucoup dans l'image, dans le paraître, on doit faire attention. Il y a ces questions de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on doit toujours être à l'affût. Ça met comme une sacrée pression actuellement. Mmh. Et la question d'infos aussi rapide, qu'on la mange n'importe comment, n'importe quelle sauce, les questions de fake news. Moi, je pense que ça les impacte au niveau de la santé mentale. Parce qu'on est tout le temps sur le téléphone, on consomme. Il faut juste peut-être voir le temps d'écran qu'ont les filles là, sur leur téléphone. Et on peut déjà se poser des questions. Non, mais c'est vrai, c'est important.
Ouais.
C'est qu'on est beaucoup dans la comparaison, dans la consommation rapide. Et on ne se construit pas forcément par soi-même, mais on se construit à travers ce qu'on voit.
Mmh.
Et malheureusement, il y a cette image qui est faussée. Parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la vraie vie ou la vraie réalité que vivent les jeunes dans les quartiers. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup de tensions internes et ce qui parfois peut impacter la santé mentale.
Ok. Et justement, vous, alors, comment vous vous situer par rapport aux réseaux sociaux, si on devait parler des réseaux sociaux. Quels sont vos réseaux et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur les réseaux que vous consommez?
Bah, TikTok.
Ok. Essentiellement TikTok, Nisrine?
Oui, mais il y a d'autres réseaux hein, comme Snap, Insta. C'est tout.
Ok, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas?
En fait, il n'y a pas vraiment de choses que j'aime ou que j'aime pas. Juste, je scroll parce que, voilà.
Tu réfléchis pas trop, quoi.
Non.
Tu vas sur TikTok quand?
Quand je m'ennuie.
Mm-hmm.
Quand je suis à la maison.
Et tu t'ennuies souvent?
Oui.
Donc, t'es souvent sur TikTok.
Ouais.
Ok. Et est-ce que, autour de vous, vous avez des exemples, peut-être, de personnes qui sont complètement prises par les réseaux sociaux au point de... Je sais pas, de pas être très présent socialement avec vous ou de faire des conneries ou d'être mal influencé. Est-ce que vous avez déjà entendu ou été témoin de ça autour de vous?
Ouais, tout le temps.
C'est
vrai? Tout le temps des petits trucs. Même si...
Comme quoi?
Ben, par exemple, la puff, c'est trop à la mode en ce moment.
La
et
quoi?
Tout. La puff, les petites cigarettes électroniques.
Ouais.
Les JNR et tout.
Ouais, c'est passé sur TikTok, ça...
Et
ça a fait boom. Maintenant, il y a presque tout le monde qui en fume comme c'était
même
normal.
Même si c'était des gens qui ne fumaient pas au départ.
Ouais, c'est devenu hyper banalisé. Je vois des petits 12 ans avec. Et c'est devenu trop banal. Et vu qu'il y en a sans nicotine, etc., les gens, ils pensent que c'est sans effet, sans représailles, mm-hmm. alors que pas du tout.
Et donc ça, c'est une trend
Enfin, pas une trend, mais c'est quelque chose qui est à la mode. Genre maintenant, c'est normal de voir quelqu'un se balader avec une puff, même s'il est mineur, il vient d'avoir 15 ans, etc. Alors qu'en vrai, ça l'est pas.
Ouais, et c'est effectivement pas super top, je crois.
Non, vraiment pas.
C'est pas très top.
Ouais, pas du tout.
Ouais, des habitudes. Moi, je les vois sous le campus de l'ULB. Le prof, il explique, personne n'écoute. Tout le monde est sur sa tablette en train de jouer à des jeux ou bien faire autre chose, mais pas à prendre note. Donc, je sais pas si c'est un rapport, mais voilà.
Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a des gens qui sont facilement influençables sur les réseaux parce qu'ils croient que les réseaux, c'est la vraie vie.
Alors,
c'est pas la vraie vie.
Et qu'est-ce qui distingue les réseaux de la vraie vie?
Sur les réseaux, on montre que ce qu'on veut. Et dans la vraie vie, je sais pas, sur les réseaux, on montre vraiment que ce qu'on veut. Genre, c'est pour faire...
Tout est calculé, en fait. Voilà. Même si on ne dirait pas, on dirait que les influenceurs, ils montrent leur vraie vie, etc. Ben non, pas du tout. Ils montrent que ce qu'ils veulent montrer.
Il y a tout qui est scénarisé.
Et ce rapport à l'image, vous avez quel rapport à l'image? Ici, on ne vous voit pas. Donc, on n'a que le son. C'est quoi pour vous la différence entre juste entendre et entendre et voir comme sur les réseaux?
On peut émettre plus de jugement, je trouve, quand on voit quelqu'un, quand on voit la personne, etc., que quand on l'entend. Quand je vais voir un TikTok, par exemple, d'une fille, je vais aller dans les commentaires, je vais voir qu'elle va plus se faire juger, par exemple, sur son physique, etc., que si on l'entendait seulement. Donc c'est différent, je trouve.
Les gens, ils auront une facilité à juger l'image que tu vas renvoyer sur les réseaux. On va juger l'image, si t'es coiffé, t'es pas coiffé, t'es cerné ou pas, bref, peu importe. Si on nous entend seulement, les gens ils vont plus prêter attention à ce qu'on va dire, la forme, ce qu'on dit, ce qu'on pense, chose qu'on fait pas forcément quand on voit la personne ou l'image.
Mmh. Je pense la même chose, mais du coup, ça peut aussi ça peut impacter la personne directement parce que la personne, après, elle va se comparer vu qu'elle va avoir... tout le jugement qu'elle reçoit, elle va se comparer et donc sa santé mentale, elle va se dégrader, quoi.
Et là, oui, parce qu'une question que je voulais vous poser aussi, vous parlez beaucoup de réseaux sociaux que vous consommez, mais est-ce que vous êtes sur les réseaux? Est-ce que vous diffusez des choses sur les réseaux?
Non.
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 Donc, vous ne faites, entre guillemets, que regarder, que consommer.
Ouais.
Oui.
Et vous connaissez des gens qui ont des réseaux sociaux, hein, qui publient des choses sur les réseaux?
Oui.
Oui.
Non.
Non?
Non.
Et c'est pour celles qui ont répondu oui, c'est quoi comme contenu?
Mais des blogs.
Et ça se passe bien pour ces personnes-là?
Oui. Enfin, après, ça dépend de... Enfin, les grands influenceurs, parfois, je sais pas, comme par exemple, il y en a une récemment, il y a eu un drama autour d'elle, et c'était de l'harcèlement banalisé. Il y a des gens en commentaire... Il la jugeait de fou.
Qui ça?
Ovi.
Ah ouais, ça va.
Donc c'est quelqu'un que tu connais ou c'est une... Que tu connais personnellement ou
Non,
c'est
non,
une...
moi je ne connais pas. Je n'ai pas envie de la connaître.
Tu connais rien. C'est sur TikTok?
Ouais.
Je ne suis pas sur TikTok. Et donc, ouais. Et donc, mais explique un peu cette histoire alors. Qu'est-ce qui s'est passé?
En gros, elle s'est affichée avec des garçons. Et il y a eu des histoires entre eux. Et les gens, ils l'ont jugée. Sauf que ça a beaucoup touché sa santé mentale. Ça a jugé son physique et tout. Et au final, maintenant, tout le monde est redevenu gentil avec elle. Genre, c'est vraiment juste pour la mode.
Je veux revenir sur le fait de... Quand tu disais, est-ce que vous connaissez des gens qui sont sur les réseaux? Il ne faut pas forcément être un grand influenceur pour être sur les réseaux. Partager son plat,
oui,
c'est être sur les réseaux. Hein.
Oui, oui, moi, c'était ça que je voulais dire.
Partager, quand on va au Libye, la photo de l'entrée de Walibi, c'est être sur les réseaux sociaux.
Ah.
Oui, mm-hmm. C'est ça, être sur les réseaux. C'est, au moment où tu publies quelque chose, tu es sur les réseaux. Donc, juste une photo de toi et ta copine, même si vous êtes assis sur un banc, vous ne faites rien, vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je vais nuancer ta question. Parce que quand tu disais être sur les réseaux, je pense qu'elles ont compris, ça veut dire faire des vidéos quotidiennement.
Non, ça veut dire poster
être sur
des
les
choses.
Réseaux, c'est... Aller chez Macifornia prendre le plat de ses sushis, c'est être sur les réseaux sociaux.
Oui.
Il y a les réseaux publics et privés, mais même quand on envoie des photos pour faire des flammes sur Snap, on est aussi sur les réseaux. Donc,
non, mais. Comme ça, c'est privé.
Ça reste quand même des réseaux. C'est quelqu'un qui fait une capture d'écran de ce que tu as envoyé et la rediffuse sur les réseaux, c'est diffusé, c'est parti. Donc, quand on est sur les réseaux, il faut aussi prendre les petits réseaux et pas regarder que les gros influenceurs qui font des millions de vues. Mettre une photo sur Internet. Sur un réseau social, c'est participer, oui, et contribuer au réseau social.
Bah, du coup, là, on est tous sur les réseaux.
Voilà.
Voilà. Je suis sur les réseaux parce qu'on a une maison de jeunes à côté où on diffuse des choses. Et même dans mon cadre privé, ça m'arrive de diffuser des choses. Mais je ne dis pas que je ne suis pas dans les réseaux sociaux, j'en fais partie. Et même en consommer, c'est contribuer à la chaîne. Consommer des vidéos toute la journée, 3-4 heures par jour, on fait partie du cercle du réseau,
oui,
social.
Ouais, après, oui, on ne le fait pas exprès. Moi, je trouve que TikTok, c'est hyper addictif. Tu vas, pour regarder 2-3 vidéos, tu te retrouves à scroller pendant 2 heures. Et est-ce que vous avez remarqué, par exemple, qu'il y avait des contenus, que vos contenus changeaient dans certains cas?
L'algorithme, non?
Oui.
Plus tu vas regarder plus tu vas consommer
un
type de contenu, plus tu vas en recevoir.
Mais c'est hyper vicieux. J'ai vu des vidéos, ouais, j'ai vu des vidéos, par exemple, de Tetris, tu vas regarder un TikTok et tout, ils vont te mettre que des trucs comme ça, des fois tu peux tomber sur des trucs suicidaires, des TikTok suicidaires, etc. C'est dangereux, c'est trop dangereux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, là je suis addict en fait?
Tout le temps.
Oui. D'être addict et tout?
Oui.
Oui, en fait, il y a quelques semaines, il y a eu un bug snap, et donc tout le monde était déconnecté. Et toute la journée, j'essayais de me connecter. Et à la fin, je me suis dit que je suis vraiment... Genre, j'ai tout le temps besoin d'aller voir mon Snap et tout. Parce que j'ai essayé 30 fois au moins. Et à la fin, je me suis dit que... Genre, je ne peux pas m'en passer, quoi. Et là, je me suis rendu compte que... C'était mal, quoi. De toujours vouloir regarder et tout.
Ça s'est senti de fou. Genre même... vous avez vu les TikTok après, ils ont fait ou pas, ouais, les gens? Mais c'est carrément devenu une trend.
Quoi,
c'est des effrayants. Il y avait une trend sur ce bug Snap. Ouais. Et les gens, ils ont commencé à poser TikTok en mode de, ouais, quand Snap, ça voulait pas fonctionner. Ils mettaient des vidéos tristes derrière et tout. Mais tout le monde avait ressenti le manque.
Oui, tout le monde disait, oui, on a redécouvert la vie et tout.
Ouais, alors ça a duré quelques heures. On se reconnectait avec la nature.
Ali, tu voulais dire un truc par rapport à ça?
Dire, ce qu'elle vient de dire, c'est intéressant. C'est qu'il y a eu un bug sur les réseaux sociaux. On est parti chercher la réponse sur un autre réseau social. Pour dire tellement les gens sont atteints. Et on a une tendance chez les jeunes, c'est qu'on a du mal à assumer l'addiction aux réseaux sociaux. Et moi, j'en parle souvent avec les jeunes. Vous êtes addict? Ils me disent, non, on n'est pas addict. Juste, on n'a rien à faire. Mais c'est parce que vous ne tentez pas de faire autre chose. Parce qu'il y a moyen de faire autre chose. C'est juste qu'il faut se donner le temps de pouvoir faire autre chose. Donc, moi, l'addiction, je la ressens de plus en plus au niveau des jeunes où... Parfois, on est en réunion, ils ne savent pas se déconnecter leur téléphone ou au moindre moment. Nous, on fait beaucoup de voyages humanitaires et solidaires au Sénégal. Moi, je leur retire le téléphone pendant une semaine. Il y en a presque qui sont, ça se voit, sur leur physique. Non, mais c'est vrai, physiquement, ça transpire, ça tremble. On dirait qu'on leur a retiré une broque dure. Non, mais... Et ça se voit même vraiment sur le physique. Et donc, de dire qu'on n'est pas addict, moi, je pense que c'est un peu, ouais, compliqué en 2025.
Ouais, on est tous un peu addicts aux réseaux sociaux. Et... Une des questions aussi, c'était l'impact de ça, des réseaux sociaux. Comment, à votre avis, est-ce que ça peut impacter très, très concrètement la santé, vos santé mentale et la santé mentale de vos proches?
Le jugement.
C'est-à-dire?
Le jugement sur les réseaux sociaux, ça veut dire... en fait, quand on poste sur les réseaux, y a des gens qui sont vicieux. Ça veut dire qu'ils vont nous juger et tout. Et ça peut grave impacter. Ça veut dire qu'on va commencer à se comparer à des gens et tout. Genre, pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai pas?
Ok. Ça t'est déjà arrivé?
Non.
Je crois que tu parlais, toi, mais ça, des vidéos de suicide, etc.
Ouais. Il y avait une fille, c'était une TikTok, je ne sais plus son nom, mais elle avait fait des tentatives et elle avait expliqué que TikTok, ça l'avait aussi poussée à faire cette tentative. Elle avait parlé d'algorithmes vicieux. Donc, elle a catégorisé tous les types de contenus qu'elle recevait à chaque fois qu'elle regardait une vidéo, par exemple, suicidaire, qui parlait de suicide, etc. Bah, ça allait revenir et elle a catégorisé ça d'algorithmes vicieux. Et je trouve que c'est un très bon... Ça, c'est vraiment vrai, en fait. C'est très vicieux.
Donc, c'est-à-dire que ça lui revenait chaque fois, même quand elle essayait de s'en échapper, le fait qu'elle ait regardé des vidéos.
Ouais.
C'était l'algorithme revenait chaque fois lui dire « Ah oui, mais comme une petite voix dans sa tête, en fait. »
Ouais, et après, t'es pris dedans. Tu t'arrives pas à en sortir. Parce que c'est très subtil, en fait. Tu le remarques pas forcément. Que si tu manges que de ce contenu, en fait. Tu consommes que ça. C'est très subtil, je trouve.
Et quand tu dis c'est très subtil, pourquoi est-ce qu'on s'en rend pas compte ?
Parce que c'est addictif.
Ouais.
C'est-à-dire ?
Parce qu'on pense que c'est normal.
Ouais. C'est très banalisé aussi.
Les contenus, tu parles des contenus négatifs ou dangereux ?
Ouais. Et en fait, vu qu'il y a des petites musiques en fond, en fait, tout le fond, la forme, les musiques, les images, etc., ça
romantise trop la chose.
Voilà, exactement. C'est trop romantisé. Mmh. Et du coup, on se rend pas compte que c'est très vicieux, que c'est un cercle vicieux.
Ça peut pousser à avoir des idées noires. Par exemple, il y a des gens... Sur TikTok, ils postent des contenus ouais, de qui parlent de mutilation, de tentatives de suicide et tout. Mais il y a des gens, peut-être ils ne se sentent déjà pas bien, ils vont voir ton TikTok, ils vont se dire oh, ben, je ne me sens déjà pas bien, ben, autant faire ça.
Et à votre avis, est-ce qu'il y a une façon de se sortir de ça, de ce cercle vicieux ?
Déjà, assumer qu'on est addict, c'est faire la moitié des choses. Parce que comme Ali l'a dit, c'est très compliqué dans notre génération d'assumer qu'on est addict tout ça, au téléphone, tout ça. Et après, il faut faire les efforts qui vont avec, désinstaller, supprimer, etc.
Très concrètement, ça vous a apporté ou ça vous apporte quelque chose ? Est-ce qu'il y a un plus à avoir les réseaux sociaux ?
Bah ça enlève l'ennui, c'est tout.
Et on reste informé aussi. Ça aide à s'informer.
On reste à l'affût de ce qui se passe dans le monde.
Informé de, ok.
D'actualité, de tout ce qui se passe.
Ali, tu voulais...
Même sur ça, rester informé, ça dépend, on va chercher l'information. Parce que sur les réseaux sociaux, là, il y avait cette semaine tout un phénomène, McDonald's, ça va devenir halal en France, tout le monde en a parlé, etc. alors que c'est une fake news et ça ne va jamais devenir halal. Non, c'est juste pour dire aussi l'information, il faut aller chercher dans les bonnes sources les informations. Et c'est ça que rester informé, c'est bien, mais bien rester informé, c'est encore mieux.
C'est effectivement mieux. Et est-ce que justement, vous pensez que vous arrivez à faire la part des choses dans l'information que vous recevez sur les réseaux sociaux ?
Oui.
Et comment est-ce que vous faites ?
Il y a des comptes, franchement, tu vois que c'est des fake news, etc. Alors que dans la d'autres, c'est des comptes certifiés. RTL, RTBF, tout ça, ils sont sur TikTok. Ils postent des vidéos courtes, vu que c'est le but. Et du coup, on sait que ça, c'est fidèle à la réalité, genre. C'est pas comme les...
Ouais, c'est plus fiable.
Ben voilà.
Hugo de Crypt aussi.
Ouais, lui aussi.
Le Parisien.
Ouais.
Qui permet de comprendre l'actualité et de décrypter le faux du vrai.
Voilà.
C'est des comptes que vous suivez aussi, ça ?
Non.
Enfin, je les suis pas forcément. Ça tombe dans mes pour toi, c'est tout.
Et si on vous disait maintenant, plus de TikTok, Snap, Instagram pendant 15 jours ?
Non. Non.
La vérité, ouais. Parce que moi, je me rends compte de mon addiction au téléphone et tout. Et je sais que ça a un très grand impact dans ma vie. Donc, si on me force, franchement, ouais. Mais si c'est de moi-même, non, je sais que je le ferai pas.
Moi aussi. En fait, c'est vraiment si on m'enlève tous mes trucs, genre mon téléphone, la tablette et tout. Genre, si j'ai pas le choix, mais de moi-même, je ferai jamais ça.
Tu désinstalleras jamais, quoi.
Non.
On a essayé, moi j'ai essayé personnellement, je sais pas si
moi aussi, mais je réinstalle tout le temps.
2-3 jours max.
Aussi. Après, moi-même, un jour après, je réinstalle.
10 minutes.
Et Ali, toi ?
Moi, je peux vivre sans réseaux sociaux. Après, j'ai grandi sans réseaux sociaux, donc on n'a pas la même approche parce qu'elles ont connu les réseaux sociaux depuis presque leur naissance.
Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Depuis quand est-ce que vous avez accès aux réseaux sociaux ?
Très jeune.
Ouais, moi aussi.
Moi aussi.
C'est-à-dire, est-ce que vous sauriez dire plus ou moins quel âge ?
11 ans, 12
7
ans.
7 ans, 8 ans, je crois.
Ah ouais ?
Mais même avant, c'était pas forcément sur mon téléphone, donc j'en avais pas, mais c'est le téléphone de ma mère et tout ça.
Ok. Ouais, donc très tôt.
Moi aussi, en entrant en secondaire, j'avais déjà un téléphone.
Ok. Toi?
Moi aussi, j'ai eu mon premier téléphone, je l'ai eu très jeune, moi. Je l'ai eu avant 10 ans.
Et pourquoi vous avez eu des téléphones aussi jeunes?
Je sais pas, j'ai demandé à ma mère.
Et pourquoi t'en voulais, hein?
En vérité, je sais pas, quand j'étais petite, je sais pas ce que je voulais voir dessus, mais maintenant, si on me l'enlève, moi, je pourrais pas, même si on me force, je serais obligée de trouver un moyen.
Bon, moi, il y a un aspect aussi des réseaux sociaux qui est dérangeant, surtout quand on est jeune, c'est un peu l'hypersexualisation des réseaux sociaux et qui est très dérangeant. On a des jeunes filles là, qui ont 13-14 ans qui font des danses et les gens consomment et elles aiment ça et on ne sait pas aussi qui regarde de l'autre côté du téléphone. Et je trouve que c'est une vraie problématique et qui crée aussi parfois des complexes entre jeunes et où ça touche de nouveau la santé mentale parce qu'on a de plus en plus de jeunes filles ou de jeunes garçons aussi qui s'exposent sur les réseaux sociaux et sans forcément baliser les personnes qui vont regarder. Ouais. Et ça, parfois, il y a beaucoup de jeunes aussi, comme on dit, on l'a dit à plusieurs reprises, qui se comparent. Mais on ne peut pas se comparer à tout le monde, on est ce qu'on est. Et donc les réseaux sociaux créent parfois aussi des inégalités entre les personnes.
Oui, parce que maintenant, il n'y a plus qu'un référent qui pouvait être, je ne sais pas, Madonna ou la vieille ici, Taylor Swift ou genre, je ne sais pas. Il y en a plein.
Ah, maintenant, c'est Poupette.
Je sais pas, c'est qui Poupette?
Oh mon Dieu!
C'est la mère à Midnisrin.
C'est une influenceuse.
Ah oui? Elle danse?
Elle danse? Non.
Elle est en prison.
Non, elle est sortie. Elle est sortie.
Elles sont bien avec
elle. Elle est en prison. Pourquoi? C'est Poupette?
Pour extorsion de fonds.
Mais elle, c'est la définition de l'addiction au réseau. Genre vraiment, elle représente ça.
Elle affiche toute sa vie. Ouais. Elle se met devant un miroir. Elle dit, je suis malade, j'ai un problème dans le corps. Même, elle affiche tout. Même ses enfants, elle les affiche. Elle vient d'accoucher. Elle a affiché. Elle était en live pendant son accouchement.
Ouais. Ok. Et donc, elle montre sa vie. Voilà.
Ouais, elle montre toute sa vie, ses enfants.
Et elle demande des sous, apparemment.
Elle demande pas directement, mais comment elle s'y prend. Ouais.
Il y a eu des histoires.
En tout cas, elle a fini en prison, avec son bébé.
Non, elle était enceinte quand elle était en prison. Et là, elle va retourner en prison. Je sais pas si vous avez vu.
Non,
j'ai pas vu. Plus.
Mais YouTube. Elle a déménagé à Dubaï.
Elle a dit qu'elle va retourner et tout.
Ok, donc en fait, c'est les feuilletons qu'on suivait avant à midi. Maintenant, elle suit sur Snap.
Oui, mais le problème, la différence, c'est que nous, il y avait un horaire, comme tu l'as bien dit, à midi. Et puis à 13h, on passe à autre chose. Mais avec les influenceuses d'aujourd'hui, c'est de minuit à minuit.
Ah, moi, j'avais des copines, elles scrollaient. Mais genre tout le temps pour... comment dire, ouais, pour actualiser la page, pour voir ces stories qui vont sortir là maintenant. Genre rester à l'affût. En fait, fallait suivre le truc.
Ah ouais, donc elle rend vraiment addict, ouais, en fait, ouais. Cette Poupette. Mais elle aurait pu choisir un autre nom quand même.
Mais c'est comme Nasdas. Nasdas aussi.
Nasdas, mais lui, on n'en parle même pas.
Il a arrêté, lui. Lui, c'était...
C'est qui, lui?
Lui, c'était un influenceur de Perpignan.
Mais c'est un homme qui prend des jeunes dans une villa. Mm-hmm. Et après, il fait du contenu, il y a des histoires, des disputes, des bagarres, tout ça.
Il les snap.
Ouais, il snap tout du matin jusqu'au soir.
Ah oui, apparemment. C'est un peu comme, c'était quoi, Secret Story, mais ouais. en snap, quoi, c'est ça?
Ouais, mais genre les anges, jour, tout ça.
Un jour, il avait mis sa carte bancaire, il y avait tout le monde, il était à l'affût.
Mais ouais.
Non, ce jour-là, c'était vraiment la folie.
Il voulait mettre ses données de carte bancaire sur Internet pour que tout le monde puisse commander. Il y avait un plafond maximum. Et tout le monde, mais même ici en Belgique et tout, le monde était connecté pour valider sa commande extra avec sa carte.
Au final, il l'a même pas mise.
Si, il l'a mise.
Il l'a mise.
Ah ouais? Il l'a mise, mais il y a quelques minutes, puisque après c'était parti en.
Ouais. Enfin, c'était de la bonne pub, quoi.
La deuxième question, c'est est-ce que pour toi, c'est tabou d'en parler, parler de la santé mentale dans ton entourage ou. À l'école, etc.
Ça dépend avec qui. Avec les amis proches, c'est normal. Je peux en parler tranquillement. Ouais, aujourd'hui ça va pas. Je suis heureux, je suis pas heureux, je suis en chute, je suis ce que tu veux. Mais dès que tu t'éloignes un peu du cercle privé, ça devient plus compliqué. Et pourtant, des fois, avec quelqu'un qui est justement pas dans son cercle privé, tu pourrais mieux comprendre ce qui toi t'arrive. Parce que lui, il a un regard extérieur sur sur cette situation, quoi.
Alors... Dans l'entourage, je pense que oui, ça peut être un tabou. Par contre, niveau professionnel, comment dire, là où je travaille, on offre la possibilité de parler des problèmes de santé mentale.
C'est important d'en parler pour être bien et pour ne pas se renfermer sur soi-même.
Pas du tout, non.
Ça n'a jamais été tabou d'en parler?
Ça, je ne dis pas. J'ai quand même un certain âge. Hein. Je ne dis pas que dans ma jeunesse, ce n'était pas tabou. Mais entre-temps, on a quand même... Il y a beaucoup de progrès. Même si, pour vous, qui êtes plus jeune, vous ne vous rendez pas compte de tout le chemin parcouru, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué et on s'est parlé de plus en plus de choses. Pas avec tout le monde. Ça reste... Oui. Ça reste un point, effectivement, qui peut poser problème, parfois.
Est-ce que pour vous, c'est tabou d'en parler, de la santé mentale?
Pour moi, pas. Pas vraiment, mais je comprends que c'est difficile pour des personnes, surtout quand tu te sens pas très bien au niveau de notre mentalité, en fait.
Comme je suis professionnel, c'est pas un tabou. Par contre, c'est quelque chose qui est mis sur la table aujourd'hui. Donc, c'est récent qu'on devrait parler. On est poussé de parler sur ça.
Bien sûr, non, c'est très important de parler de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui oublient ça et qui banalisent cette chose-là.
Et puis, on a décidé de faire appel à un spécialiste. Lui, c'est Osama Loukili, spécialiste de la santé mentale des jeunes. On le laisse se présenter et répondre aux questions d'Oumaïma et Maïssa.
Bonsoir, moi, c'est Maïssa. On est ici avec Oumaïma.
Oui, bonsoir.
Donc, on voulait déjà vous remercier d'être venu aujourd'hui. Et avant de commencer, on aimerait bien que vous vous présentiez un petit peu, que vous nous expliquiez qui vous êtes et en quoi consiste votre travail. Et ensuite, on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans la psychologie en général, tout ça, et quel est votre domaine.
Ok, donc bonsoir, moi c'est Loukili Osama. Je suis orthopédagogue clinicien et ici, je travaille dans la convention PPL, donc psychologue de première ligne. Je suis aussi en formation continue en psychothérapie infanto-juvénile, donc travaille avec les enfants et les ados. Et donc, les missions de mon travail, c'est de travailler un axe sur l'accompagnement au niveau des difficultés d'apprentissage, mais également l'autre axe qui est les difficultés ou plutôt le travail psycho-éducatif. Il y a aussi la partie soutien à la parentalité, pardon, où on va travailler avec les parents. On va soutenir, comme le nom l'indique, les compétences parentales par rapport vraiment au développement de l'enfant et de l'adolescent.
Ok. Ok, du coup, on va direct rentrer dans le vif du sujet avec les questions qu'on a préparées pour vous. La première question, c'est pourquoi les influenceurs ont autant d'impact sur les jeunes?
Alors, d'après moi, dans une phase de développement identitaire chez le jeune, il y a cette recherche symbolique, c'est-à-dire à quoi j'ai envie de m'identifier. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va s'identifier à ce qui nous est donné. Et ce qui nous est donné directement, ben, dans le prolongement de notre main, qui est le téléphone, eh bien, ce sont des influenceurs. Et donc, ce n'est pas pour rien, vous le remarqueriez, et vous le remarquez déjà, je pense, que les influenceurs sont suivis par un public qui a la même tranche d'âge. Ça passe de 16 ans vers 25. Et ça aussi, c'est en lien avec tout un processus cognitif qui se met en place. C'est-à-dire que le cortex préfrontal, c'est-à-dire celui qui est devant du cerveau, eh bien, il est immature jusqu'en moyenne à 25 ans. Et donc, avant d'arriver donc à quoi il sert, ce cortex préfrontal, ben, il sert justement à rationaliser les choses. Il sert à réguler aussi les émotions aussi. Et donc, comme il est encore immature, effectivement, ben, les choix qu'entreprennent certains jeunes, même les choix d'identification, ne sont pas souvent et toujours raisonnés ou raisonnables. Et donc, parfois, on a ce conflit entre des personnes qui disent « Mais comment tu peux suivre celui-là, quoi ? Comment tu peux regarder encore celle-là ou celui-là ?» Et on ne comprend pas, mais l'autre trouve en lui des choses qui le touchent parce que le corpus émotionnel hypothalamus que l'on a dans le cerveau, lui, il est à maturité. Et donc, lui, il est envahi. Et donc, ces jeunes, on les touche plus facilement dans ce qui est émotif, l'émotionnel. Et donc, les influenceurs, ils se doivent, et ils ont compris l'exercice et ils le comprennent bien, c'est-à-dire toucher l'émotion du public avec lequel on fait passer le message. Et donc, c'est pour ça qu'il y a du buzz, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a toujours des choses comme ça qui font que tu restes intéressé. Mais si ils restent dans une forme de rationalité, à parler des choses morales, il n'aura pas beaucoup de public.
Pourquoi est-ce qu'on devient vite accro aux réseaux sociaux? On n'arrive pas à s'en détacher et tout?
Alors, il y a tout un aspect au niveau des réseaux sociaux. C'est, ça va toucher, en tout cas, ça va alimenter l'attention. Je prends un exemple d'un réseau social, même s'ils se ressemblent un peu tous, hein, même si on a l'impression qu'ils ne se ressemblent pas, mais qui est celui le moins bon pour les professionnels, c'est Instagram. Okay. Parce qu'Instagram fait véhiculer aussi des images qui ne sont pas réelles, etc. Mais on est dans une forme de... Voilà, on scrolle, et à chaque fois, on a une nouvelle tendance, une nouvelle chose, et chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle dopamine, une nouvelle hormone de plaisir qui vient s'ajouter. Et donc, il y a comme un fil sans fin, et donc, on est un peu épris par cette hormone qui est là, de plaisir à chaque fois, de nouveauté. Et lorsqu'on arrête, eh bien, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais tu vois, quelque chose comme un manque, comme une addiction. Okay? Et donc, j'ai envie de retrouver ce que ça me faisait comme bien lorsque je scrollais à chaque fois sur une nouveauté. Okay? Ça mettait un peu du nouveau dans le truc, et ça m'apportait quelque chose de plaisant. Et je vais chercher ce plaisir. Et quand je ne l'ai plus, directement dans l'immédiateté, eh bien, il y a quelque chose qui me manque.
Ok. Mais du coup, on pourrait dire que les réseaux, ils sont faits exprès. Enfin, ils sont faits pour capter notre attention en permanence. C'est fait exprès, tout ça.
Ben, il y a quand même une volonté derrière publicitaire, financière. Je pense qu'effectivement, Instagram ne gagne rien à ne pas...
Ouais, bah ouais, logiquement. Ouais.
Ni Snapchat, ni aucun autre réseau. Donc, effectivement, il y a un intérêt majeur. Et l'intérêt majeur, il est financier d'abord, je le pense. Et puis après, il y a d'autres intérêts sociologiques, politiques, okay, idéologiques aussi, par rapport à ces questions-là. Ben, quand je dis politique et idéologique, ben, je fais référence à une application même qui existe en Occident, TikTok, et qui existe en Chine. Et quand on voit la comparaison des deux, ben, on voit que ce n'est pas la même chose qui transparaît entre les deux. Alors, en Occident, on laisse paraître plus de l'événementiel, plus des spectacles, plus des choses qui vont dans le sens de l'émotivité, l'émotion. Alors qu'en Chine, il y a une idéologie politique assez intéressante vers l'élitisme, etc. Et donc, leur TikTok chez les jeunes, ben, c'est vraiment des choses beaucoup plus cadrantes, moins dans le divertissement. Et donc, c'est quand même assez intéressant de savoir qu'il y a quand même des formes derrière de vouloir de contrôle, bien ou mauvais, mais il y a derrière une forme de volonté de contrôle.
Ok.
Alors, moi, j'ai une question. C'est comment les réseaux peuvent rendre anxieux ou dépressifs?
Ah, c'est intéressant. Ils rendent anxieux et dépressifs quand... on en fait son tout, son soi, en fait. Quand on le remplace par les relations, quand on l'utilise et qu'il nous amène vers l'isolement lui-même. Les réseaux sociaux sont rarement ce qui nous amène vers. C'est d'abord, je me sens pas bien et je me réfugie vers les réseaux sociaux. Et donc, je me réfugie vraiment dans un isolement. Mais au départ, j'ai une forme d'anxiété qui est là, que j'arrive pas peut-être à nommer. Et le réseau social, lui, va pas créer l'anxiété, il va la contaminer encore plus.
Ok, si je comprends bien, au départ, c'est un sentiment de réconfort qu'on recherche.
C'est ça. Okay. On va chercher du réconfort dans ça, parce que, bah, tout simplement, quand on n'est pas bien, la première chose quand on n'est pas bien, la première chose qu'on recherche, c'est ne pas penser qu'on n'est pas bien. Ouais. Et qu'est-ce qui permet de détourner l'attention dans ce qu'on n'est pas bien? Bah, c'est le réseau social. Que je regarde des choses, ben, ça détourne mon attention sur mon être et ma souffrance, mais pour un temps limite. Et donc, ça va créer, ça va contaminer. Pourquoi? Parce que j'ai occulté mon anxiété, ma souffrance, mon mal-être par le réseau social, mais elle existe toujours, le mal-être est toujours là. Il n'est pas effacé, même si je crois qu'il est effacé. Et je ne lui donne pas le temps, et je ne vais pas l'écouter parce que mon corps et mon esprit me envoient un message pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais moi, je mets des pansements dessus, par le réseau, par les trucs, et donc je m'isole. Mais le truc, il grandit quand même. Et donc, ça fait que l'anxiété grandit.
Oui, c'est au fur et à mesure.
Exactement. Ouais. Et donc, on se laisse aller vers quelque chose qui... On pense que ça nous fait du bien, mais au finish, on réalise. Parfois, j'ai des cas comme ça qui viennent et qui sont accros aux réseaux sociaux, mais ce n'est pas le réseau social qu'on va travailler. C'est quelle était l'anxiété qui a déclenché, finalement. Le mal-être, pour pouvoir y travailler, on retourne tout en haut. Hein. L'anxiété, quand on a un mal-être ou qu'on ne se sent pas bien, le refus, ça ne sera jamais les réseaux sociaux. Trouver un professionnel, surtout que c'est qu'aujourd'hui, en Belgique, on a une grande chance de cette génération comparée à la mienne. Il faut savoir le dire, bah, vous avez d'une société qui a pensé le bien-être psychologique pour vous, et des politiques aussi. Et ils ont mis des financements et des budgets pour ça. Et donc, tous ceux qui ont moins de 24 ans, ils peuvent bénéficier de psychologues conventionnés. Et donc, ils ne payent rien, ils ont droit à 10 séances gratuites. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir aller consulter un professionnel et surtout déconstruire cette notion de « je ne suis pas fou, alors je ne dois pas aller voir un professionnel, il ne faut pas attendre la folie. Si on attend la folie, on va voir un psychiatre. » Et lui traite de la santé mentale et un peu de la folie, de la psycho, si on peut le dire comme ça. Mais le professionnel, le psychologue ou autre, lui, son rôle, c'est d'accompagner la qualité de vie quotidienne des jeunes. Et donc, c'est cool d'aller voir un professionnel que de voir quelqu'un d'autre qui va me dire des choses qui sont peut-être pas la réalité, pas ce qui est attendu, qui sont peut-être fausses aussi, hein, et qui ne vont pas m'aider plus que ça. Alors, moi, je le dis ici, je profite. Hein, vous avez droit à 10 séances. Jusqu'à moins de 24 ans, allez-y. C'est super intéressant. Vous pouvez même aller travailler des compétences émotionnelles. Il y a des études, allez voir si vous êtes un peu curieux, mais l'impact des compétences émotionnelles sur la vie adulte plus tard, c'est incroyable. Et donc, go, quoi.
Est-ce que les réseaux peuvent changer notre façon de penser ou de nous voir?
Bien sûr, totalement. Oui, oui, les réseaux sociaux vont changer notre manière de penser et de voir. Et c'est parfois ce que je disais tantôt. Quand on veut faire passer une forme d'idéologie, effectivement, on la fait passer peut-être par les réseaux, par les films, par les séries. Un exemple, pendant la période de la guerre froide, États-Unis avec la Russie, ben, les films américains, Hollywood, ben, faisaient des films où l'ennemi, c'était un Russe. C'est pour ancrer dans l'idée des spectateurs que l'ennemi, c'est la Russie. Eh bien, on va utiliser un peu la même chose, quoi. Différentes, avec différentes manières, mais en gros, si on veut faire passer des messages, on peut les faire passer par les réseaux sociaux, par les films, par les séries, par les animes. Effectivement, celui qui contrôle ça, ben, contrôle l'idéologie, contrôle ce qu'il a envie de faire passer. Donc, si je regarde un exemple très concret, moi, je suis une fille, parce que les plus touchés par les réseaux sociaux, Instagram, ce sont les recherches ont démontré que c'était des filles. Je regarde tous les jours un modèle de femme qu'il faut être. Chaque fois que je scroll, elles sont limite parfaites. Alors que c'est faux. Il y a un montage derrière, il y a des floutages. Mais ça, on ne le voit pas. Et même si on le dit aux jeunes filles, ben, elles pensent que malgré tout qu'on le dit, ça va construire une forme de ce que la société elle attend de moi. Je dois ressembler à ça. Et donc finalement, oui, ça va créer un construit par rapport à... on me dit que c'est ça qui est bien. Mais tous les jours, je vois ça. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ce n'est pas en une semaine que tu vas changer. Vu que tu le tiens depuis, je ne sais pas, moi, 15, 16 ans jusqu'à 22 ans, ça fait des années que tu es là en train de regarder les mêmes choses. Ça prend le temps. Hein. Et donc, ça mûrit aussi dans ta tête. Et donc, le changement, il ne va s'opérer pas du jour au lendemain. Il va s'opérer à travers le temps. Et donc, c'est là où les complexes naissent, les problématiques naissent, les regards et les visions naissent. Et donc, oui, effectivement, ça impacte. Ça impacte le jeune parce qu'on est, comme je l'ai expliqué tantôt, l'adolescence est une phase super intéressante. Et ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé les réseaux sociaux pour... Je veux dire, ce n'est pas anodin. C'est les gens qui sont derrière, qui veulent faire passer des idéologies ou des pensées ou des manières, ben ils le savent très bien que c'est un stade de développement où la création de l'identité, elle se fait. Et donc, elle va se faire à travers des choses que l'on va voir, consulter, se créer, pour créer son propre identité. Et donc voilà, donc oui, ça peut toucher effectivement et ça peut impacter. Moi, j'en suis persuadée.
Okay. Alors, j'ai une question, c'est comment utiliser les réseaux pour qu'ils ne soient pas toxiques? Comment faire en sorte pour ne pas tomber là-dedans?
Ben, il ne faut pas garder cette pensée pour soi. Il faut apprendre à la déconstruire, selon moi. C'est-à-dire trouver toujours quelqu'un de confiance, un adulte, de manière privilégiée pour pouvoir discuter. Ça peut être... n'importe qui, hein. Ça peut être un éducateur, ça peut être un enseignant si on est dans l'école. Si on est dans une maison de quartier, une maison de jeunes, ça peut être l'éducateur aussi là. Ça peut être un professionnel de la santé. On peut aller consulter pour discuter avec lui de ce qu'on pense. Et donc, discuter et consulter quelqu'un, un adulte, qui est professionnel, et lui dire « Moi, je pense, quand j'ai vu ça, que c'est comme ça. » Et comme ça nous permet d'avoir un double regard. Et pas juste celui du mien ou de mon groupe. Parce qu'en fin, le mien, c'est le même que le groupe, hein, parce qu'on a le même âge. Donc on pense un peu de la même manière. Et donc, on va chercher quelqu'un qui est adulte et qui nous permet justement de confronter notre regard et de se dire « Ok, moi, je pense ça. Est-ce que ce que je pense, c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est ce qui m'est apporté ?» Et donc, dans la confrontation d'idées argumentaires, des échanges que l'on a, effectivement, je vais peut-être me dire « Je vais prendre des choses avec plus de nuances. » Ça ne veut pas dire que je vais prendre tout ce que l'adulte me dit, parce que ce n'est pas la même génération parfois, etc. Okay ? Mais je vais prendre avec plus de nuances. Je vais nuancer le propos qui est là. Et donc, ça va être moins toxique. Me dire « Ok, ouais, effectivement, ouais, ok, d'accord. » Il m'a dit que les filles qui sont sur Instagram, les femmes là, elles sont quand même floutées. Ce n'est pas des vraies images. Ouais, d'accord, mais ce n'est pas peut-être toutes. Hein. Il y en a quand même qui sont vraiment naturelles. Ok, on vient de nuancer. On vient de passer à... Elles sont toutes floutées, ce que lui dit. Ma croyance à moi, c'était elles ne sont pas toutes floutées, elles sont toutes naturelles. Et j'arrive au résultat de... Il y a du 50-50. Et ça, c'est super. On n'est pas dans la toxicité. Il y a du 50-50. Donc, il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. Et ça me permet de prendre du recul par rapport à ce que j'ai. Quoi. Et donc, je ne rentre pas éperdument dans une idée qui est peut-être fausse. Et donc là, ça devient toxique. Alors, en fait, moi, je vais anticiper sur une question que peut-être que vous n'avez peut-être pas mis, mais qui, moi, elle est intéressante parce qu'elle a apporté un peu de nuance. Je l'ai préparée parce que c'est quand même important. Quels seront les bénéfices de ça ? Parce que se dire qu'il n'y a que du mal, ce serait quand même triste. Sortir de là et se dire « Ah, les réseaux sociaux, il faut supprimer. » Non, il y a aussi des choses positives. Et heureusement, sinon, personne n'irait. Et donc, les réseaux sociaux, ils ont quand même... ce ton, de pouvoir garder aussi quelque chose de super important, qu'on n'en parle pas beaucoup, surtout au stade de développement chez l'adolescent, c'est la créativité. La créativité, c'est quelque chose qu'on ne met pas trop en avant. Pourtant, elle fait partie du phénomène de développement de l'adolescence. Et donc ici, la création, l'expression artistique, pardon, est importante par ce biais, hein, qui est les réseaux sociaux. On va commencer à imaginer, créer des choses, faire des petits mini-vlogs, des petites vidéos, même pour du divertissement, mais je crée quelque chose. Et ça, c'est important. OK ? C'est important. Il y a aussi le côté du soutien social, dans le sens où, surtout chez les jeunes qui sont isolés, ils arrivent à trouver, à parler avec des gens, alors que peut-être dans la réalité de vie, il a moins de facilité à rentrer en interaction. Et donc, par le réseau, comme il n'est pas directement confronté à l'individu, il peut rentrer facilement à discuter et créer peut-être un lien social s'il se sent dans une situation compliquée. Donc, il y a aussi ce côté intéressant. Il y a aussi le côté, bien évidemment, l'accès à des ressources éducatives et psychologiques. On parlait de TikTok. Bah, TikTok, il y a parfois, ça dépend à quoi on s'abonne, mais il y a des pages intéressantes. Enfin, on ne va pas dire que TikTok, il y a des pages intéressantes qui nous apprennent des choses. Des petites minutes éducatives ou pédagogiques ou psychologiques où on apprend des choses, où on est sensibilisé face à des choses. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, le développement d'une citoyenneté, j'ai envie de dire, numérique et d'un esprit critique, c'est aussi intéressant qui passe par là parce que aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul mode de média qui était avant le journal télévisé ou la télé de manière générale. Eh bien, on a d'autres regards qui apportent un autre esprit critique et ça, c'est super intéressant. Donc, la télé, les journaux et les plateaux télé disent quelque chose qu'on peut retrouver parfois sur les réseaux de quelqu'un qui a filmé, qui dit un peu. Et donc, ça, c'est intéressant de se dire, oh, OK, donc ça m'amène à apprendre et comprendre qu'il existe parfois deux versions différentes des choses. Et ça, c'est aussi important. Voilà.
OK, parfait. Du coup, pour revenir sur la prévention, comment est-ce qu'on pourrait apprendre à se déconnecter sans se sentir exclu, mis de côté, etc. Parce que du coup, maintenant, il y a les refs... les trends, tout ça, sur TikTok, tout ça, on peut vite se sentir mis de côté si on ne les connaît pas, tout simplement. Mmh. Du coup, comment on pourrait faire pour éviter tout ça ?
C'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question parce que ça amène pas qu'un seul... ça n'émane pas que de l'individu. Si le jeune, lui... Ça demande qu'on crée un entourage autour de lui. OK ? Donc, en prélude, j'exposais un petit peu qui je suis, qu'est-ce que je travaille. Et effectivement, j'accompagne des enfants et des adolescents, mais j'accompagne aussi les parents. Parce que tout seul, tu ne fais pas grand-chose en tant que professionnel. L'enfant, l'adolescent, on l'a dit tantôt, il n'est pas encore mature. C'est une réalité cognitive. Okay. Et donc, ceux qui peuvent apporter cette aide et ce regard différent, c'est les parents, cet entourage-là. Et c'est pour ça que le travail que je mène et que j'aime mener avec les parents, c'est justement avoir ces piliers fondamentaux pour cet enfant qu'ils vont venir apporter. Alors, ce n'est pas de dire qu'ils doivent réprimander et mettre un veto sur les réseaux sociaux, mais d'accompagner son enfant dans soit des accompagnements de sortie ensemble, création de liens, motiver son enfant à faire du sport, un sport, de l'artistique, de l'art, j'en sais rien, mais quelque chose qui fait qu'il ne sera pas obligatoirement que sur ça et qu'il ne dépendra pas que de ça. Et donc, et pour les parents, imaginons, qui nous écoutent, effectivement, ou pour d'autres professionnels qui seraient nous écouter, les signaux d'alerte qui seraient les plus importants à garder en visuel pour éviter que son enfant rentre dans une forme d'addiction ou par rapport aux réseaux sociaux et aux écrans, c'est de 1, on l'a dit tantôt, l'isolement progressif, qui est le numéro 1, ok, et l'isolement progressif du réel, okay, c'est-à-dire il ne rentre plus en interaction avec nous. Trouble du sommeil, ok, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Il ne dort pas assez bien ou il ne dort pas bien, ou même si on lui retire, ça ne va pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Irritabilité. Il est vite irrité, il se met vite en colère, je lui parle, il explose, je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive quoi là? Ok. Irritabilité et surtout colère intense lorsqu'on te retire les réseaux ou l'écran. Ouh, ça ne va pas ça. Tu n'es pas censé te sentir dans une forte colère. Si je te retire, ça veut dire qu'il y a une dépendance quelque part de quelque chose. Et donc, quand vous voyez ce jeune ou cet enfant dans une auto-évaluation, uniquement par le regard des personnes qui sont en ligne, ok ? Si les personnes de mon groupe qui sont dans le numérique me voient bien ou mal, ou j'ai peur qu'ils me voient en bien ou en mal, ça c'est grave. Ça veut dire que tu n'es plus dans le réel, tu ne vis que dans l'irréel. Et donc, attention aussi à toutes ces idéations suicidaires ou auto-dévalorisantes hein, qui vont venir liées à cette comparaison. Je ne me sens pas bien parce que je ne ressens pas un tel. Ça ne va pas, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Pour moi, c'est les deux parce qu'on entend beaucoup les filles parce que le physique, mais les garçons aussi en ce moment. Il y a quelque chose du physique qui est super important, lié au corps, lié à une forme de masse musculaire. Et ce n'est pas anodin. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux plein de bodybuilders ou de personnalités qui font du fitness, etc. Justement, des fitness modèles. Et donc, le garçon se dit, mais si je ne suis pas ça, en fait, je ne suis pas masculin. Je ne suis pas un homme, un vrai. Et donc, il y a aussi de cet ordre-là.
La troisième et dernière question, c'est est-ce que les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale chez les jeunes?
Je pense qu'il y a un impact sur le rythme de vie ou le rythme de choses. Comment les gens se mettent dans un rythme frénétique face à la vie. Mais aussi, je pense que ça joue directement dans les attentes ou la pression que les gens mettent sur leur propre dos.
L'un des défauts des réseaux sociaux, du coup, c'est l'impact que ça a eu sur les jeunes qui sont exposés beaucoup plus vite à la vie sociale, active, très active même. Et ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de dégâts, suicide, dépression. Et c'est pour ça qu'il faut en parler très jeune, parce que les jeunes, ils sont de plus en plus vite dans les réseaux sociaux. Et il faut de plus en plus vite les sensibiliser, du coup.
Il y a beaucoup d'impact sur les jeunes, notamment sur leur façon de penser. Elles peuvent être vite influencées par la pensée des autres, etc. Et ça peut être dangereux ou au contraire un bien pour certaines personnes.
Moi, par exemple, pendant un moment, je faisais que scroller sur mon téléphone et je perdais énormément de temps. Je restais sur mon téléphone, scroller sur Instagram, toutes ces applications, et je perds un temps énorme. Et j'ai pu laisser voir des projets, des chances passer à cause du temps passé sur mon téléphone. À l'école, là maintenant, pendant un moment, j'arrivais pas à étudier, j'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas à truc parce que je reste sur mon téléphone. Et c'est comme une sorte de... c'est trop une mauvaise habitude. Je reste sur mon téléphone, là, je scrolle, et on voit même pas le temps passer. Une heure, deux heures, trois heures, tu avais comme objectif d'étudier à telle heure, mais tu es sur ton téléphone, tu as accroché et ça te bousille littéralement le cerveau. Et du coup, tout ce qui est réseaux sociaux, ça ne me dit pas qu'il faudrait interdire ces choses-là, mais je trouve juste qu'il devrait y avoir un juste milieu.
Est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, ça a un impact sur les jeunes?
Je pense que oui. Pas beaucoup pour moi, je pense. Pendant la journée, tu vas beaucoup sur le smartphone. Les gens qui partent aux vacances, si toi, tu ne peux pas partir aux vacances, si tu dois rester à la maison toute la journée ou tu vas te comparer avec les autres personnes. Et ça, je pense que ce n'est pas très bien. Ouais.
Mais je ne pratique pas beaucoup les réseaux sociaux et comme je vous l'ai dit, je suis plus du plus jeune âge. Mais je pense qu'effectivement, tout ce qu'on voit et qui est faux, tout ce qui est manipulé, tout ce qui est montré en exemple à des jeunes qui ne sont pas forcément avertis ou qui ne veulent pas spécialement toujours écouter ce que les plus anciens veulent leur communiquer, ça peut avoir un impact, ça peut leur faire croire à des choses qui ne sont pas vraies. Ils peuvent se construire d'une manière qui ne leur permette pas après de pouvoir se poser et d'être bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans ce qu'ils sont.
Que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, de manière générale, c'est comment on prend l'information, comment on comprend l'information, et comment on l'interprète, comment on la traite. Parce que beaucoup de gens voient plein d'infos, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent, ils ne comprennent pas ce que ça implique. On traite beaucoup d'informations, et donc du coup, voilà, il n'y a pas de contextualisation, et donc du coup, des gens interprètent des choses qu'il n'y a pas. Et voilà, à côté de ça, ils nourrissent des angoisses, la Troisième Guerre mondiale, la fin du monde... Les collapses, machin, et tout ça. L'Armageddon, et tout ce qui va. Et puis le complotisme, et puis tout ce qui va avec.
Surtout parce qu'aujourd'hui, on voit plus en plus des jeunes qui sont plus actifs dans les réseaux sociaux, mais ils sont moins actifs dans la vie. Donc, on voit les jeunes qui trouvent ses amis dans les réseaux sociaux. Souvent, ça peut être intelligence artificielle. Mais ils ne sont pas capables de parler avec ses amis à la rue, par exemple. Donc, oui, les réseaux sociaux jouent un grand rôle.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous en savez un peu plus sur la santé mentale des jeunes et sur les réseaux. Si vous avez des choses à nous dire sur le sujet, n'hésitez pas à surfer sur le site radiookai.be et écrivez-nous. Et puis, venez nous rencontrer et découvrir le quartier.
Et hop là, c'est fini. Merci au PCS Quartier Nord et à l'ASBL Soab pour cette chouette collaboration avec le groupe des filles. Merci à la région et à la ville sans qui nous n'existerions tout simplement pas. Merci à Radio Campus sans qui nous serions sans ondes fixes. Merci à Zineke, sans qui nous serions sans studio fixe. Merci à Romuald et son écoute attentive et patiente. Merci à Nima, Nisrine, Umeima, Meissa, Dina, Samira, Janat, Ali et leur enthousiasme heureux. Et merci à vous tous qui nous écoutez. Puis rendez-vous le mois prochain pour tourner la page de 2025 en regardant vers 2026. On sera au coin du feu de la fête de quartier, le 18 décembre à partir de 16h, à l'école Clavertuvir, avenue de l'Héliport, en face de la dalle, avec toutes les habitantes et les habitants. Bref, ce sera festif et cocon. Et ce sera diffusé le 27 décembre à 20h sur Radio Campus 92.1 pour se remettre en douceur de la première partie des festivités et affronter la suite. On se réjouit. En attendant, prenez soin de vous et rendez-vous sur radiookai.be. Radio, c'est comme radio. Okai, c'est O-H-K-A-A-I.be, tout attaché. Et puis, on se voit dans le quartier Nord, évidemment.